trop chaud. Pas bouger.
Bon été sur Radio Sarfé.
Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans les estivales, on traverse l'Atlantique pour rejoindre les Antilles avec un épisode du podcast Les Sons Terrestres, qu'on aime beaucoup, issu de la revue d'écologie radicale Terrestre. Habiter les Antilles, à l'heure de l'Anthropocène, ça s'appelle. C'est une série de 4 capsules sonores scientifiques qui ont été réalisées en mai 2024 à l'occasion d'une rencontre entre étudiants et chercheurs, chercheuses autour de l'écologie politique en Martinique. Une semaine d'enquête pour aborder pas mal de problèmes environnementaux spécifiques à ces territoires. Les discussions captées par Florence Ménez et Lucie Loustano, qui sont respectivement anthropologues et étudiantes en sciences politiques, et qui ont été mises en onde par l'artiste sonore Maya Bokeh. Dans les 2 capsules du jour, il sera question de plantations de bananes, de contamination au chlordécone et d'algues proliférantes. Sargasses. Vous avez dit sargasses ? Bonne écoute.
Moi, je suis un agriculteur, ça fait 25 ans. Ça fait 30 ans quand même. 30 ans, je suis agriculteur, donc je me plains pas, je suis passionné, il n'y a pas de honte. Parce que les 2 corps de métier qui sont vitaux ici à Martinique, c'est l'agriculteur et le pêcheur.
Mais les pêcheurs, il y en a quasiment plus. C'est ça le problème.
Et c'est pour ça que je réfléchis le côté pisciculture pour permettre un peu de poisson frais, parce que sinon, c'est des. On mange quoi du congelé ?
Les principaux agents toxiques, on en retrouve beaucoup, comme dans beaucoup de territoires. Ce qu'il faut mentionner, c'est que les agents toxiques auxquels on va être exposé en Martinique ne sont pas les mêmes que ceux qu'on va retrouver, par exemple, à Lyon, à Paris, ou dans tout autre pays du monde. On a ce qu'on appelle des expositions différentes, donc des exposomes différents. Et d'ailleurs, si on est en Martinique, les exposomes au nord de l'île ne vont pas être les mêmes que ceux au sud de l'île. Donc, dans l'exposome, il y a effectivement la composante chimique, c'est celle qui m'intéresse. Et en Martinique, c'est une terre qui est connue pour utiliser beaucoup de pesticides. Historiquement, le pesticide le plus connu, c'est la chlordécone, mais il y en a eu d'autres qui ont été utilisés avant elle et après elle, après son interdiction. Et donc, parmi ces pesticides, on trouve actuellement, par exemple, le glyphosate, qui est un pesticide herbicide qui est très médiatisé du fait de sa très grande utilisation. Donc, en fonction des types d'agriculture, il y a un très grand nombre de pesticides qui peuvent être utilisés, mais il y a évidemment aussi une pollution qui résulte du trafic automobile, il y a une pollution qui résulte de l'utilisation d'aliments bien particuliers qui peuvent contenir, par exemple, des additifs alimentaires, des conservateurs, et donc l'exposome martiniquais va être constitué d'une variété de toxiques qui résultent d'activités agricoles, les pesticides, ou d'activités plus industrielle ou on va dire plus en lien avec les activités de tous les jours comme le trafic automobile. Donc c'est un exposome qui est varié. Alors il y a quand même des spécificités puisque la chlordécone a été utilisée aux Antilles et n'a pas été utilisée dans l'Hexagone, ce qui fait que là il y a une vraie spécificité sur cet agent-là. Et c'est pour ça que aussi j'allais au campus, c'était pour discuter de ces problématiques de pesticides dont en partie la chlordécone, qui est un polluant organique persistant, donc qui est toujours présent malgré son interdiction au niveau de l'exposome martiniquais et guadeloupéen d'ailleurs.
Je vais vous montrer. Oui. Et puis après, dans vous bois coco, parce que j'ai mis tout ça à l'ancien bois. Je vais vous montrer là où on plante des dachines sur des terres en banane.
Ah oui.
En bonne quantité.
Et ça se vend
sans problème. Ça va dans les coins. Ça passe avec un certificat. Donc c'est bien beau de faire donc le débat au niveau amphithéâtre, mais dans la réalité.
Mais c'est ça, eh complètement, oui, mais c'est pour ça qu'on vient ici.
Non, mais ça m'interpelle là, vraiment. Moi, je veux voir ça.
Mais c'est.
Des Chine sur des terres contaminées.
C'est ça, c'est ça. Est-ce que. La question du foncier, pardon. Ouais. Parce que tu m'avais dit que tu étais entouré par des terres qui ont utilisé de la chlordécone.
Ouais, donc. Ouais. On a toutes ces parties là à l'époque. Quand vous montez là, vous avez vu qu'il y a une parcelle de bananes loin.
Oui, oui.
Et bien donc, vous avez vu beaucoup de pesticides. Donc, on a aussi donc.
On ne les a pas vus.
Non, donc, quand vous montez.
Les bananes. Les bananes, oh, voilà.
Okay. Des pesticides sur pâte.
C'est ça, exactement.
Alors, le pesticide en question, c'est un insecticide. C'est-à-dire que c'est une molécule qui est utilisée pour tuer des insectes. Il a été utilisé en Martinique dans les années 70, 80, jusque dans les années 90. Et il a été utilisé dans d'autres pays du monde. En Europe, on l'oublie parfois, mais il a été utilisé en Allemagne. Il a été commercialisé aux États-Unis également. Il a fait l'objet d'une interdiction relativement rapide. Et ce pesticide, il a été très utilisé en Martinique pour lutter contre le charançon du bananier, qui est un insecte, qui est un ravageur du bananier. Donc son utilisation était assez simple. C'était un épandage au niveau des plantations de bananes, pas sur les bananiers en soi, mais sur le sol, près des racines, pour éviter que l'insecte ne ravage les bananiers. C'est donc un pesticide qui est organochloré. Donc ça, c'est important de le dire, parce que le mot chlore dans organochloré signifie que ce pesticide contient des atomes de chlore. Et les organismes vivants ont beaucoup de difficultés à gérer les composés qui sont chlorés, ou des composés qui sont bromés, ou des composés qui sont fluorés. On parle beaucoup des PFAS actuellement. Dès qu'on a du chlore, du brome ou du fluor, c'est des atomes d'halogène, et ben les molécules chimiques qui en contiennent sont difficiles à gérer pour un organisme, comme le mien ou n'importe quel autre être humain. Ça veut dire quoi, mal gérer? Ça veut dire que ce pesticide, lorsqu'il est ingéré, on a beaucoup de mal à l'éliminer, parce qu'on ne le reconnaît pas. Ou plutôt, on le reconnaît, mais on le transforme mal. Et il est très hydrophobe. Hydrophobe, ça veut dire qu'il a peur de l'eau. Donc en fait, si on reprend la racine, ça signifie que c'est une molécule qui va avoir tendance à s'accumuler plutôt dans les parties grasses de l'organisme. Donc à titre d'exemple, pour être un peu plus quantitatif, c'est un pesticide qui va avoir chez l'être humain, homme ou femme, une durée de vie, une demi-vie, pardon, qui est de l'ordre de 130 jours. Ça signifie que si on en ingère 1 gramme aujourd'hui, dans 130 jours, on en entourera toujours 0,5 gramme. Ça veut donc dire qu'une personne qui en absorbe tous les jours finit par en accumuler. Et donc une solution aussi pour s'en débarrasser, c'est de ne plus être exposé. Or l'exposition principale, c'est une exposition qui est alimentaire, soit par l'eau, soit par la consommation de produits. Alors contrairement à ce qu'on croit, c'est pas les bananes qui nous contaminent, parce que le pesticide a beaucoup de mal à atteindre les bananes qui sont très en hauteur dans les bananiers, et comme il est hydrophobe, il aime pas l'eau, il a du mal à remonter par la sève. Par contre, tout ce qui va être cultivé dans le sol, les patates douces, les pommes de terre, les ignames, ça peut être très contaminé, notamment en surface.
Ouais. Donc, comme il manque des terres.
Ouais.
Ce qu'on a, on traverse. Est-ce qu'on doit de l'autre côté? L'autre côté, c'est de la chine, hein.
Mais excuse-moi Alexandre, j'ai pas compris le problème en fait qu'il soit là, que les dachons soient là.
Il y avait des bananes avant. Eh bien, juste des bananes à côté, il y avait des bananes avant.
Il y avait des bananes avant. Et donc, ces dachines, elles sont acquises, ces dachines?
Ah ben, c'est à des locataires qui travaillent avec une coopérative en Anas Martinique, qui travaillent avec Maya au Lamantin, qui travaillent avec une autre coopérative sous Bois Rouge. Donc, tous ces producteurs-là donc, livrent dans ces coopératives qui, entre eux, livre dans les cantines, livre
petit. Donc ils empoisonnent les enfants.
Depuis à la naissance, tu as déjà, tu as déjà l'épée de Damoclès.
Ouais. Pour que je comprenne bien, donc du coup ils font pousser les dachènes là, sur un terrain très riche en chlordécone. Le dachène se charge en chlordécone.
Et en le dachène, ça pousse dans la terre.
Ouais, mais ils le revendent à qui? C'est ça que j'ai pas compris.
Des coopératives.
Les coopératives, et du coup.
Les voilà, coopératives.
Voilà.
Comme ils répondent à des appels
d'offres. Un peu comme des AMAP, mais direct.
À la vingtaine de Fort-de-France, cuisine centrale, donc c'est des bons mots.
Ouais. Ouais, mais AMAP, c'est censé être aussi bio, quoi. Enfin, je veux dire, tandis que là, est-ce que c'est étiqueté bio ou c'est présenté
non.
comment?
Ah non,
c'est ça.
C'est une revente.
Oui, voilà. Mais là, en principe, Cette vente, non, elle est interdite, parce qu'on ne peut pas vendre des produits contaminés.
Ben oui, voilà.
Mais il y a une interdiction même à produire, là.
Oui, d'ailleurs, produire.
Il ne devrait pas produire, mais normalement,
là. Mais
le problème, c'est qu'il n'y a pas de contrôle.
Normalement, il ne pourrait pas produire ça. Il pourrait produire autre chose.
C'est pour ça que tu dis qu'il n'y a pas assez de contrôle. C'est ça. Ouais.
Mais si vous n'êtes pas monté ici, vous ne serez jamais au courant.
Oui, et ben, alors, ce qui est très ennuyeux, parce que nous, au CPSN, qu'est-ce qu'on dit qu'il faut acheter autant que possible dans les supermarchés,
dans les
et non pas au bord des routes, parce que c'est censé être contrôlé.
Voilà.
Dans les supermarchés, oui. Ouais.
Alors que les AMAP, ça peut marcher, parce que justement, là, c'est un circuit qui est contrôlé.
Oui, c'est ça.
Même dans les supermarchés, ça passe dans les coopératives. Les coopératives, ouais. Pas tout le temps, ils contrôlent. Hein.
Voilà.
Les coopératives, le dimanche, il faut faire des livraisons, pour que le lundi matin, quand tu...
Ah, ouais.
Donc, le supermarché, chez Leclerc, chez Carrefour, le rayonnage est bien rempli.
Ouais.
On mange des produits frais.
Il y a un vrai problème de contrôle.
Un vrai problème de contrôle. Et puis aussi d'éducation, parce que le Martiniquais, il préfère aller dans les GMS, chez Leclerc, chez Carrefour, dans les GMS, que d'aller chez le petit producteur. Qui... Alors que moi, je sais, je fais le bon produit, ça fait 20 ans que je suis en bio.
Oui, oui.
Donc il y a une pression au niveau du foncier pour avoir une bonne qualité de production. Une politique d'autosuffisance qu'on parlait.
Oui.
Donc il faut manger plus de produits locaux, mais manger plus de produits locaux, mais sous quelle parcelle ? Donc sous quelle parcelle ? Il y a aussi la problématique des aides. Les gens qui font les bons produits ne sont pas récompensés.
Ah, c'est clair. Le POSEI n'est absolument pas adapté à ce type de culture.
Mais et nous producteurs bio, on trime là. Parce que
oui.
Moi, si je faisais du tonnage, moi, je ne souffre pas de problème. Hein, mais je mets des pesticides.
Oui, c'est sûr.
Mais moi, je ne mets pas des pesticides. Mais j'ai beaucoup de problèmes.
La grande difficulté des agriculteurs et des agricultrices en agriculture biologique, hein, c'est le fait de commencer à travailler sur une terre qui est non contaminée. Sur un produit comme la chlordécone qui est persistant, bah, il est évident qu'on ne peut jamais dire qu'on est en bio, entre guillemets. Donc il faut aller travailler sur des terres déjà qui contiendraient des pesticides qui peuvent se dégrader rapidement, facilement. Et ensuite, évidemment, le soutien des autorités vis-à-vis de ce type d'agriculture, qui est perçue comme étant une agriculture plus chère, parce que, alors curieusement, on utilise moins de produits, moins de pesticides, mais elle est plus chère, parce qu'on considère que les rendements vont être moins importants, ou que il y aura des insectes ravageurs, ou ce genre de choses. Il n'y a pas d'insectes nuisibles, il y a des insectes ravageurs, mais voilà, ils ont le droit de se nourrir aussi, quoi, quelque part. Donc, pour les agriculteurs, il y a beaucoup de contraintes. Quelqu'un qui veut commencer à se mettre au bio, bah parfois, même sur d'autres territoires, il doit attendre 3-4 ans avant d'avoir l'autorisation, parce que la terre, avant, elle était peut-être contaminée par des pesticides. Et ensuite, on n'est jamais à risque que, par des transferts, pour la chlordécone, il y ait finalement, par le fait d'un ruissellement, une contamination du sol à la chlordécone. Ça impose un suivi et ça impose une beaucoup de méthodes qui font que c'est difficile pour eux.
Juste une question.
Je voulais savoir les contrôles.
Oui, les contrôles. Déjà au niveau de contrôle, on n'a pas ce contrôle.
Ici à la Martinique. C'est de contrôleur.
Ouais, mais pour toute la Martinique, tu as peut-être 4 à 5 contrôleurs.
Les contrôleurs de quoi ?
De la DAF.
La DAF qui vont sur les parcelles.
Vraiment.
Donc il n'y a pas de responsabilité, quoi.
Dans l'Hexagone, normalement, les agriculteurs doivent remplir des registres s'ils utilisent des pesticides. Il n'y a pas de fonctionnaire pour relever les registres, donc ils ne le font pas. C'est pareil.
Donc c'est tout ce problème-là. Donc, éduquer, responsabilité, communiquer.
Ouais.
Et puis, comme je dis, responsabilité, c'est au niveau de ceux qui détiennent les décisions. C'est ça le problème ici à la Martinique.
La question de la traçabilité, elle se pose pour tous les types de pesticides. Et si d'ailleurs on devait faire un très court écart sur le sujet de la chlordécone pour parler des autres pesticides, on sait très mal comment un sol et les micro-organismes qui le composent réagissent à la présence d'un pesticide. Parce qu'on, comme nous, les micro-organismes du sol vont avoir une tendance à transformer les molécules pour les éliminer, mais du coup, en les transformant et en les éliminant, elles produisent des molécules nouvelles. C'est ce qu'on appelle des métabolites. Le métabolisme, c'est la propriété qu'a le corps de transformer des molécules auxquelles il est exposé. On est exposé à du tabac, on transforme les molécules du tabac et on les élimine dans nos urines et nos fesses. On doit d'abord les reconnaître et après on les transforme. Pour ce qui est des pesticides, c'est pareil. Pour la chlordécone, durée de vie très longue, je l'ai dit, dans les organismes humains, mais durée de vie beaucoup plus longue dans les sols. On est sur une molécule qui est suspectée d'avoir une demi-vie dans les sols entre 50 et 200 ans. Ça signifie 50 ou 200 ans qu'on parle de 6 ou 7 générations de personnes potentiellement exposées si elles ne suivent pas les recommandations pour diminuer leur exposition. Et donc, cette molécule, elle est facilement dosable actuellement. Elle est dosée d'ailleurs dans le sang et en Guadeloupe et en Martinique, on a la possibilité de se faire doser gratuitement pour savoir à quel niveau de chlordécone est mis, comme la glycémie, on mesure le sucre dans le sang, la chlordécone est mis, on mesure la concentration de chlordécone dans le sang. Donc ça, on peut le faire. Donc on a les outils pour mesurer les niveaux de chlordécone dans les sols, dans les eaux, dans le sang humain, etc. Mais il est vrai que ce suivi, il a été organisé relativement tard et avec une molécule qui a une durée de vie qui est très très longue. Donc ce qui pose un vrai problème, c'est la problématique de la transférabilité de cette molécule. Quand on l'épand sur des bananes, et uniquement sur des bananes, on ne peut pas se dire que la molécule va rester au niveau des champs de bananiers. En fait, on s'est rendu compte que l'île a été grandement contaminée. Alors il y a des régions qui sont plus contaminées que d'autres, que ce soit en Martinique ou en Guadeloupe. Et surtout, la molécule ne contamine pas que les sols, elle contamine aussi les eaux. Donc ce qui est dans l'eau, notamment des organismes vivants, dont des poissons, et c'est pour ça qu'il y a une très forte réglementation de la pêche aux Antilles, du fait de la contamination, on va dire, proche, proximale, par la chlordécone.
L'ananas que vous mangez, c'est rempli de pesticides. Hein.
Ah bah oui.
C'est rempli de pesticides. Vous, c'est, ça sent bon, mais c'est rempli de pesticides.
Quand ça sent bon.
Alors, quels pesticides? Parce que c'est ceux, là, on parle de ceux qui sont produits ici, les ananas ici.
On a donc des pesticides, par exemple, l'étrelle pour mûrir. Donc, on a aussi des pesticides pour assurer, donc, pour éviter donc l'enherbement des parcelles.
Ouais.
Et il faut le faire régulièrement tous les 15
hein,
tous les 1 mois 15 jours. On a le glyphosate, tout ça. Donc tous les 1 mois 15 jours, il faut traiter aussi avec du
herbicide. Il y a des insecticides aussi qui sont utilisés.
Oui, on a en même temps dans le même bain tout ça, ces pesticides, tout ça. Donc ils font un seul mix check. Et puis ils envoient ça.
Ah, milkshake, ça j'aime bien l'expression.
Et ça donne le cocktail.
Milkshake, cocktail,
et puis après, et tu vois, donc on a de très beaux ananas, les gens sont contents, c'est des fruits locaux, mais c'est bien bon, mais c'est pas tout le temps, il faut manger.
Mais on en importe pas mal aussi pour les ananas.
Oui,
Costa Rica.
Costa Rica
ouais, dans les mêmes conditions de production.
Hein. La Martinique a raté son coche. Pourquoi? Parce qu'on trouve dans les 5 années à venir, on sera comme Saint-Martin. Saint-Martin, c'est 99%, 99%, c'est des produits importés.
Ah, oh, c'est un désert en plus, Saint-Martin.
Donc, ici, nous allons petit à petit entrer dans cette logique-là. Toutes ces terres qui sont restées en banane vont être en canne.
D'accord.
C'est beaucoup plus rémunératrice. Et ça paye bien, le rhum, tout le monde en boit. Les Chinois en dégolent. Et on aura très peu que c'est des derniers mots quand c'est des gens comme moi qui vont rester à garder donc une alimentation locale, mais pas en même temps.
De manière générale, alors j'ai pas la réponse de manière spécifique, mais on sait que dans les jardins, pour lutter contre des insectes ou des ravageurs qui seraient trop nombreux, réintroduire de la biodiversité et les prédateurs, c'est quelque chose qui fonctionne. On sait que pour lutter contre des chenilles dans les jardins, les mésanges, les poules font un gros boulot. Donc réintroduire de la diversité dans les jardins, c'est une bonne manière de lutter contre l'hégémonie d'une espèce qui serait effectivement ravageuse parce qu'elle est trop nombreuse. Et si par contre, on maintient cette espèce mais à un tout petit niveau et qu'elle permet de nourrir des oiseaux qui, eux, vont créer une autre forme de biodiversité dans le jardin, on rétablit un équilibre qui est sûrement beaucoup plus bénéfique pour tout le monde. Donc le mieux, c'est de réfléchir au cycle de vie et aux chaînes alimentaires qu'on a souvent supprimées par l'utilisation de ces molécules, parce qu'elles sont confortables, parce que ça va vite, parce qu'en un ou deux jours, on a ravagé le ravageur, mais on a aussi ravagé d'autres espèces parce que, comme d'habitude, avec les pesticides, le gros problème, c'est la spécificité. Et beaucoup de pesticides, quasiment tous, n'ont pas une spécificité vis-à-vis d'une seule espèce. On commence à avoir maintenant des organismes qui sont développés, l'INRAE travaille là-dessus, pour lutter contre un type d'espèce, mais c'est des agents biologiques qui sont utilisés. C'est par exemple des nématodes pour lutter contre certaines chenilles. Et ce n'est pas des nématodes qui vont persister, parce que dès que la chenille aura disparu, les nématodes disparaîtront aussi. Mais par exemple, pour lutter contre certains pucerons, réintroduire des larves de coccinelles, ça fonctionne bien. Mais il faut que les coccinelles soient là. Si on a mis un pesticide, les coccinelles ne sont pas là, pas plus que le puceron. Tout ça concourt à détruire la biodiversité et à, évidemment, rompre la chaîne alimentaire.
Alors en fait, les sargasses, hein, ce sont donc des algues brunes qui sont holopélagiques, c'est-à-dire qu'elles elles circulent, elles ne sont pas fixées, elles circulent à la surface des océans. Et on trouve quantité et quantité de ces sargasses, justement dans la mer des sargasses, qui est à l'est des Bermudes, à peu près dans, là où il y a le triangle, le célèbre triangle des Bermudes. Il y a donc aussi cette mer des Sargasses qui fait des kilomètres de long. Et Christophe Colomb, d'ailleurs, ou d'autres navigateurs, hein, donc Christophe Colomb avait vu cette étendue en pensant que c'était une étendue de terre. Il avait pensé toucher terre, alors que, en fait, c'était des sargasses. Et donc, ces sargasses, elles sont dans une gire océanique. Donc, elles tournent, en fait, sur elles-mêmes. C'est la seule mer sans rivage. Et elles tournent sur elles-mêmes, et de temps en temps, il y a des parties de cette mer des Sargasses qui se détachent et qui font, c'est un phénomène qui est documenté au moins depuis le 19e siècle, et donc qui descend sur l'arc caribéen et qui se dépose sur les îles. Voilà. Et on les ramassait en fait auparavant, justement, comme en Bretagne, pour en mettre sur les champs, par exemple. Il s'est passé, il y a eu un événement en 2011, et on a mis beaucoup de temps à savoir quel était cet événement, justement, qui a provoqué une arrivée massive de ces sargasses. Au début, on n'avait pas très bien compris qu'elles venaient vraiment de la mer des Sargasses. Donc, on a identifié deux principaux types de ces sargasses, hein, ces sargassum fluitans, ces sargassum natans. Et elles sont arrivées donc vraiment en masse, à tel point que, même en 2018, il y a eu ce qu'on a appelé, ce que les scientifiques ont appelé la ceinture, la grande ceinture atlantique de Sargasses, qui traversait donc 8000 km d'Atlantique entre les côtes africaines et les côtes caribéennes. 8000 km de manière quand même discontinue. Mais on a détecté par image satellite justement cette énorme ceinture de Sargasses, donc notamment en 2018. C'est là où il y a eu justement cette prise de conscience véritable de l'ampleur justement de ce problème. Il y a eu pendant plus de 10 mois des arrivages continus, à tel point qu'on ne pouvait plus les enlever en fait, on ne pouvait plus dégager ces sargasses, et donc elles pourrissaient sur place, et donc là elles dégageaient une trentaine de gaz. Donc c'est là où on a commencé à avoir véritablement les effets sur le matériel, avec le matériel électronique qui tombait en panne, télévision, climatiseur, le frigo, les ordinateurs. Et puis, tout le métal devenait brun, noir, mais même aussi le bâti, en fait. Donc, le plafond, par exemple, était moucheté de noir. Et puis ensuite, ça partait. Et donc là, il y a eu de véritables questions qui ont commencé à se poser, évidemment. Il y a eu aussi des problèmes médicaux, des symptômes qui ont été ressentis par les habitants. Et donc, deux médecins ont fait leur thèse de médecine générale, justement, sur ces symptômes. Et il y avait vraiment une corrélation entre les arrivées de ces sargasses et puis les symptômes respiratoires, cutanés, etc.
Alors, première chose, on est allé voir les riverains, les gens du bord de mer. Or, les gaz en décomposition amènent, alors Ross expliquerait ça maintenant, bon, l'hydrogène sulfuré qui est mélangé au H2O, ça fait de l'acide sulfurique qui est transporté par les gouttes d'eau et qui donc se répand sur des dizaines de kilomètres. Donc nous, quand on est dans des couloirs de vent en hauteur, les sargasses se décomposent en bas. C'est ce que j'ai montré aux gens de l'ARS qui sont de Manininer, qui sont mis dans le quartier. C'est-à-dire qu'ils ont mis des filets. Donc nous, on a un couloir de vent, on est protégé. Mais le nord de la baie du Simon n'a pas, le filet ne couvre pas toute la baie. Donc il y a une partie dans le nord, là, près des Brisants, par exemple, où les sargasses sont toujours en décomposition et arrivent toujours. 11 ans de sargasses, jamais ramassées. Hein.
Nous, ce que l'on voulait mettre en exergue, c'était en fait la circulation des gaz, qui sont des gaz qui sont neurotoxiques, que l'on ne voit pas, dont on sent l'odeur d'œufs pourris, mais dont on ne connaît pas encore les effets à long terme sur le corps humain. On le voit sur le matériel, la dégradation, et donc on peut établir une corrélation entre la dégradation du matériel et puis la dégradation de notre santé.
Donc je pense que le raisonnement, c'est bon, il n'y a pas beaucoup d'habitants là, donc ils ne sont pas prioritaires. Le problème, ce que j'ai montré, ce que j'ai fait constater, c'est que ce n'est pas seulement les gens du bord de mer qui subissent la décomposition, c'est tous les gens sur les hauteurs, tout d'Australie, tout Petite France, même jusqu'à Bois-Soldat, pour les gens, tous ces gens-là, donc les gens de RRS et Madinière sont venus constater, à prendre les témoignages des riverains de leur souffrance physique, de leur eczéma, de leur maux de ventre, etc., et voir que les maisons sont aussi endommagées à 3 km sur les hauteurs qu'au bord de mer. Là, on a vu vraiment, c'est un coup de chance, on était chez un monsieur là. On a vu sa maison en bas, et on a vu de chez lui, on voyait une maison toute en hauteur, on a pu aller dans cette maison-là, et c'était les mêmes dégâts. C'est-à-dire que on a une sous-estimation des dégâts. Et les dégâts, ils sont aussi, la façon dont ça se répand est énorme. Je ne sais pas si vous imaginez que comme il n'y a aucun statut, actuellement, une télé, on va chez But, on achète 4 fois 100 francs, on achète une télé. Moi, j'ai perdu 6 télés. Mais là, les gens sont en train de perdre leur toiture. Tout le quartier perd sa toiture. Une toiture, c'est entre 20 000 et 30 000 euros. Et je ne sais pas si les autorités ont l'idée de ce... Moi, je ne peux pas aller acheter une toiture 4 fois sans frais, c'est pas possible. Et rien n'est mis en place. Il n'y a aucune reconnaissance.
C'est pour ça qu'il y a une
des
réflexion
dégâts,
quand même.
Il n'y a aucune évaluation.
Il y a une réflexion
sur
comment on peut aider les populations.
Mais il faudrait évaluer déjà.
À faire face. Mais on ne peut pas être dans le cadre du droit commun, puisque, on l'a dit, ce n'est pas un risque naturel reconnu. Donc il n'y a pas de possibilité d'intervention des assurances. Et l'État n'assure pas les populations. Donc il y a cette difficulté-là.
Alors, en fait, malgré de nombreuses demandes de parlementaires, en effet, la sargasse n'est pas reconnue comme un risque naturel. Il y a des textes du Sénat qui le classent comme un risque émergent. Il y a des discussions à savoir justement est-ce que ça peut être classé en risque naturel ou non. Et ça ne correspond pas aux caractéristiques en fait du risque naturel parce que c'est quelque chose qui est continu. Alors que le risque naturel, en fait, c'est quelque chose qui est brutal et qui se termine et on peut réparer ensuite. Tandis que là, ce sont des arrivages aléatoires, parfois brutaux, mais le plus souvent, en fait, continus. Donc, on ne peut pas le classer comme risque naturel, pour l'instant, selon la juridiction française. Ou alors, il faudrait faire évoluer, justement, les catégories de risque naturel. C'est ce que demandent aussi les habitants.
Alors, le constat, c'est qu'il ne faut pas qu'elles échouent. Si elles échouent, il faut les ramasser dans les 48 heures. Si on ne les ramasse pas, elles libèrent tout ce qu'elles ont. Des gaz, des métaux lourds, et c'est une catastrophe pour ce qui est dessous, pour ce qui est en amont, plus ou moins proche de la zone d'échouement. Des études sur l'action au niveau du zinc, etc., ont montré que ça pouvait aller jusqu'à des dizaines de kilomètres. On sent l'odeur des sargasses jusqu'à Ducos, jusqu'à la Mena. Maintenant, l'odeur, ça ne veut rien dire. Les zones de base, c'est 0,07 ppm du H2S. L'œuf pourri, c'est H2S. Ça part à partir de 0,000 quelque chose. Donc, c'est pas toxique, mais ça veut dire quelque chose qui se passe. Par contre, les métaux, les bijoux, si vous avez des bijoux blanc sur vous. J'ai vu qu'il y en a pas mal. Peut-être à la fin de la réunion, vous allez voir, ça va devenir noir. Ça va devenir noir, ça va noir. Ça va noir. Une fois, j'ai été interviewé par une fille de RFI, un grand reporter, qui est venu. En une heure et demie, son truc était allé. En direct, j'avais repéré. Quand je regarde son alliance, je savais son arsenal. Au moment où son arsenal, je regarde son arsenal, je fais « Oh, mais ça alors ?» Mais en direct, hein, à la radio. C'est... Alors maintenant, ce qui est mal connu, on sait que l'âge de zeste, l'ammoniac, on sait que c'est pas bon. Ça, c'est connu. Hein. Mais on sait que c'est pas bon en mode aigu. Et en mode chronique, on ne sait pas. Et c'est l'argument, le bouclier principal de l'ARS. Ah, lui, hein, lui, il ne dit plus rien. Mais lui, il dit, parce qu'on lui dit ça, il dit, oui, il n'y a aucune preuve scientifique, aucune étude qui manque au niveau chronique, ça peut être bénéfique, etc. Souvent, lors des réunions, je dis, il faut arrêter de réfléchir, c'est le bon sens paysan. Là, c'est... Merde, avant, je ne pétais pas, maintenant, je pète tout le temps, ça me réveille la nuit. Quoi. C'est ça, la réalité. Hein. J'ai l'œil qui me gratte, ceux qui habitent dans le coin, j'ai l'œil qui me gratte, j'ai un gâche qui me gratte, je suis dépressif, je rentre chez moi, je vois ça, je perds, et puis je respire pas bien, les asthmatiques qui s'aggravent, il y a des gens qui deviennent asthmatiques, c'est ça la réalité. Mais il faut le prouver, parce que sinon ils ne bougent pas.
Alors, on a commencé à chercher la cause de ce phénomène, justement en se disant, ainsi nous aurions un levier d'action, nous aurions la possibilité d'atténuer ou d'arrêter en fait ce phénomène si on connaît la source. Donc pendant plusieurs années, jusqu'en 2022, la cause principale qui était donnée, c'était du déversement de biofertilisants ou d'autres produits nocifs dans l'Amazone et puis aussi sur les côtes ouest de l'Afrique, ce qui aurait alimenté en fait ces algues, se serait nourri avec ces nutriments. Il y a aussi le réchauffement climatique, le fait qu'il y ait une hausse de la température de l'eau. Et puis, il y a aussi un léger décalage d'un courant océanique qui fait que, justement, les sargasses, plutôt qu'auparavant, donc, d'arriver, de circuler un peu plus haut, en fait, brassaient beaucoup plus large et donc se reproduisaient avec donc, la chaleur, les fertilisants, etc. Ces facteurs-là, surtout l'arrivée de biofertilisants, là justement ça permettait une imputation de la responsabilité. On pouvait dire quelqu'un est responsable. Donc si quelqu'un est responsable, eh bien on peut agir à la source justement. Et donc on pensait que c'était le Brésil. Alors certes, il y aurait pu y avoir, c'est assez commode parce qu'on se disait évidemment il y aura des problèmes diplomatiques à régler, mais c'était Bolsonaro à l'époque, donc connu pour sa destruction de la nature. Donc on se disait peut-être que avec tout notre système diplomatique international, nous arriverons peut-être à l'empêcher ou à atténuer. Bon. Or, donc ça donnait un espoir aux habitants. Or, il n'en est rien. Il se trouve que, apparemment, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2010, il y a eu une légère oscillation du globe terrestre. Et donc, une petite partie, en fait, de la mer des Sargasses est partie, s'est détachée de la grande mer des Sargasses. Et avec le réchauffement climatique, avec le courant, oui, elle prolifère. Mais donc, ça veut dire que personne, finalement, n'est responsable, véritablement. Et là, quand il y a une dilution des responsabilités, donc due au changement climatique... Et comment faire? Déjà, personne n'est responsable, enfin, tout le monde est responsable. On n'a aucun levier d'action, on n'a aucun moyen d'arrêter ça.
Elle libère des pourritures, des métaux lourds, en particulier l'arsenic et la chlordécone. Mais quand elles sont échouées, qu'elles explosent et puis qu'il pleut, elles se remplissent et elles remplissent la mer de ces produits-là. Et on a découvert des taux énormes d'arsenic et de chlordécone, et ce liquide s'appelle le lixiviat. Quand on voit l'état de la mangrove et des arbres, les poissons, quand il pleut tout le lendemain, ils sont trop surtournés, il y a des photos qui sont parues. Et voilà ce que dit toujours l'ANR 2023. Vous allez charger un article de chlordécone, c'est la biobout, c'est une véritable bioaccumulatrice, c'est le lixiviat. Arsenic de 10 mg par litre, soit plus de 500 fois supérieur à la limite réglementaire pour la pêche. Qu'en est-il de nos poissons que l'on pêche? Qu'en est-il de nos crabes que l'on prend au moment du matutu crabe? Quand vous voyez les gens sur la plage, les ouvriers qui travaillent sans capteur ou à capteur qui s'éteignent en plein air, sans masque, etc., ils sont à des taux comme ça. Moi, j'ai vu un mec qui était sur un petit bateau qui a explosé une bulle. Il a juste une tonne de mettre en marche arrière et il a perdu connaissance. Il y a un gamin qui tombe dans une zone où il y a des sargasses échouées qui sont coûteuses et puis son copain lui jette le ballon. Il va dedans, il marche, il en a, moi j'en ai jusqu'au-dessus du genou, hein. Donc lui il en a jusque-là. Et je vous assure, c'est pas facile de sortir de ça parce que ça s'enfonce. Et s'il éclate une bulle, parce que quand vous jetez des pierres là-dessus, vous jetez des pierres, puis après des petites bulles qui remontent, si lui il éclate une bulle, il a 2 minutes pour s'en sortir, sinon il est... Je suis alarmiste, mais c'est vraiment ma crainte. Hein. Moi, j'ai fait des expériences avec des animaux, des poules. Hein. J'ai fait, j'ai attaché, le lendemain, c'était mort. Hein. Ça, c'est... J'ai fait qu'une fois. Hein. C'est pas bien.
Mais... Elles ont en effet, c'est les appréciations qu'on en a, les usages qu'on en a, mais même la juridiction qui est attachée à ces sargasses peut différer d'un pays à l'autre. Il ne faut pas oublier que ça touche actuellement une trentaine de territoires, donc îles et continents. Et vous voyez, la manière, les usages qu'on en a, la représentation qu'on en a, mais aussi la capacité financière, la capacité technique à s'en occuper, diffère d'un pays à un autre. Vous avez la Dominique, qui est un pays indépendant, donc juste entre la Guadeloupe et la Martinique, qui est aussi impactée par les sargasses, mais ils sont aussi impactés fortement par les ouragans, ils sont aussi impactés par d'autres problématiques, en fait, qui fait qu'ils ne peuvent pas réserver une grande part de leur budget qui est déjà assez petit, au traitement des sargasses. A contrario, vous avez par exemple le Mexique, hein, c'est surtout le Yucatan qui est touché, et le Yucatan, en fait, ce sont des grandes plages qui ont été privatisées par les hôtels et qui ont fait appel à l'armée pour dégager en fait ces sargasses. Mais à côté, vous avez les plus petites communautés qui vont justement bénéficier en fait de ces arrivées de sargasses pour valoriser, pour en faire du savon, pour en faire des briques, etc. Donc il y a aussi par exemple à Sainte-Lucie, donc juste au sud de la Martinique, Sainte-Lucie qui est aussi une île indépendante, une île du Commonwealth. Donc il y a un ancien professeur de sport qui a bénéficié des arrivées de sargasses puisqu'il a monté son entreprise, il a fait travailler toute sa famille, une partie du bourg, parce qu'il fait justement des biofertilisants à partir des sargasses. Donc il y a vraiment, oui, je pense, différents visages à cette sargasse. Et c'est vrai qu'elle est aussi bénéfique. Alors, même en mer, en fait, elle peut être à la fois bénéfique, mais aussi elle peut être nocive. Parce qu'elle peut être nocive quand il y a de grandes accumulations de sargasses avec une grande épaisseur de sargasses qui empêche, en fait, la lumière de pénétrer dans l'eau. Mais elle peut être aussi très bénéfique quand elle sert de DCP. Donc de DCP naturel, donc dispositif de concentration de poissons. Puisque si elle est à la surface, en fait, les oiseaux se posent, il y avait plein d'insectes, les oiseaux se posent, et puis les petits poissons sont en dessous, les petits attirent les grands, etc. Donc il peut y avoir toute une chaîne trophique sous un radeau de sargasses. Et d'ailleurs, les pêcheurs... quand ils voyaient des radeaux de sargasses, donc précédemment, avant ces arrivages-là, avant ces arrivages massifs, ils se précipitaient parce qu'ils savaient que dessous, il y avait du poisson.